Nous sommes heureux d'accueillir ce soir M. Bernard Lahire pour cette conférence autour des problématiques de l'individu dans les plis singuliers du social. Nous rappelons que le cycle des conférences de l'Hôtel de Ville est organisé par l'association Aussitôt dit en partenariat avec le Centre Max Weber et la Rotonde École des Mines. Cette conférence sera la dernière de la saison. Et bien entendu, une prochaine saison est en préparation. Donc, nous vous donnons par avance rendez-vous à l'année prochaine. C'est M. Philippe Forest qui présentera cette soirée. Donc, je leur laisse la parole sans plus attendre.
Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais commencer par remercier l'association Aussitôt dit de m'avoir demandé de faire cette présentation. Je vais essayer de m'en acquitter de la façon la plus brève possible et en même temps en essayant de présenter quand même correctement notre invité de ce soir. Donc Bernard Lahire est sociologue. Il est professeur de sociologie à l'université. Il a été enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, et puis depuis quelques années, une dizaine d'années, un peu plus même sans doute, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Et vous êtes aussi, Bernard Lahire, directeur adjoint du Centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie de la région Rhône-Alpes rattaché au CNRS. Vous avez un travail scientifique très impressionnant, à la fois du point de vue théorique et du point de vue empirique. Vous êtes un praticien de l'enquête de terrain et vous insistez sur ce point, vous revendiquez ce rapport au terrain. Et vous avez aussi un travail qui est jalonné par un grand nombre de publications dont je vais un petit peu parler. Mais d'abord, qui a été aussi, qui s'est traduit par des formes de reconnaissance académique et scientifique et même politique. Donc, membre de l'Institut universitaire de France, professeur invité dans un grand nombre d'universités étrangères, médaille d'argent du CNRS en 2012, chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2012 aussi, et en 2013. Lauréat du prix de l'écrit social pour l'ouvrage dans les plis singuliers du social dont il va être question aujourd'hui. Alors évidemment, ces grandeurs d'établissement, comme on dit, ne sont pas étrangères au mérite scientifique et au travail scientifique que vous avez fait, que je me permettrai de présenter très brièvement avec des catégories un peu commodes et peut-être pas entièrement adéquate. Toute une partie de votre travail a été consacrée à la sociologie de l'éducation et en particulier à l'analyse de l'échec scolaire. Ce travail sur l'échec scolaire était le travail que vous avez fait dans votre doctorat qui a été soutenu en 1990 et qui a été publié sous le titre « Culture écrite et inégalité scolaire, sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire ». Ce travail de 1990 n'est pas resté isolé, puisque quand on regarde votre bibliographie, on se rend compte que périodiquement, les questions d'éducation et les questions scolaires reviennent dans vos travaux et constituent donc une préoccupation récurrente. Je citerai en ce sens-là le livre « Tableau de famille » qui est paru en 1995, qui explore les différences entre des familles de milieux populaires et entre des enfants en situation de réussite ou d'échec scolaire. C'est un ouvrage qui, si je peux me permettre cette remarque, a eu pour moi une importance tout à fait considérable parce qu'il a permis, me semble-t-il, de faire un sort à l'idée de démission parentale quand on réfléchit sur les familles de milieux populaires et sur l'échec scolaire. Et il me semble que cette partie critique était tout à fait, et est toujours d'ailleurs, tout à fait bienvenue. En 2008, vous avez aussi fait paraître un livre qui s'intitule « La raison scolaire, école et pratique d'écriture, entre savoir et pouvoir ». plus un certain nombre d'articles qui reviennent sur ces questions d'enseignement. Par exemple, des propositions d'enseignement des sciences du monde social dès l'école primaire, publiées dans l'Esprit sociologique en 2005. Très lié à cette sociologie de l'éducation et de l'école, je mentionnerai aussi le travail que vous avez conduit sur l'illettrisme et l'illettrisme comme histoire d'un problème social, paru en 1999 sous le titre « L'invention de l'illettrisme ». Une autre catégorie de vos travaux regroupe ce que je proposerais d'appeler une sociologie de la culture et de l'art, avec en particulier l'ouvrage qui s'intitule « La culture des individus » en 2004, et puis, dans une période plus récente, un ensemble d'études consacrées à la création artistique, à la création littéraire, par exemple « La condition littéraire » en 2006, l'ouvrage sur Franz Kafka en 2010, « Ce qu'ils vivent et ce qu'ils écrivent » paru en 2011. Et pour finir cette catégorisation, il faut mentionner un ensemble de travaux consacrés aux sciences sociales elles-mêmes, qui sont soit une réflexion épistémologique, par exemple « Monde pluriel, penser l'unité des sciences sociales » en 2012, ou une réflexion sur les fonctions des sciences sociales, à quoi sert la sociologie, paru précédemment en 2002, ou encore du travail théorique comme l'esprit sociologique ou comme l'homme pluriel. Dans cette perspective, je me permettrai de signaler que votre travail se situe dans un prolongement critique de l'œuvre sociologique de Pierre Bourdieu. Vous avez en particulier fait paraître un ouvrage en 1999 qui s'appelle « Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, dette et critique ». Ce prolongement critique veut dire qu'un certain nombre de thèses et de positions sociologiques de Bourdieu sont présentes dans votre travail. Vous dites par exemple que le concept d'habitus vous a conduit à une sociologie de l'individu, vous a conduit plus précisément à la conviction qu'il est nécessaire d'examiner le monde social à l'échelle des individus. Mais simultanément, ce prolongement est un prolongement critique dans la mesure où ce programme d'une sociologie des individus, il semble que Bourdieu lui-même ne l'ait pas réalisé ou pas complètement réalisé. Il a en tout cas laissé de la place pour votre propre travail scientifique. Voilà, je cesse là mon introduction parce que l'ouvrage dont vous allez nous parler maintenant se veut un éclairage rétrospectif sur l'ensemble de ce travail et de ses publications, éclairage que vous souhaitez apporter, et en particulier, je vous cite, pour rendre plus largement visible le sens de votre travail, et aussi, formule intéressante, pour rendre la vie plus difficile aux lectures approximatives, inexactes ou mal intentionnées. Voilà, Bernard Lahir. Je vous laisse la parole.
Merci. Ah, j'ai l'impression d'avoir entendu ma nécrologie un petit peu. C'est toujours un peu douloureux pour l'auteur, en fait. Donc j'espère que j'en aurai encore quelques autres à venir et que ça continuera. Merci pour cette présentation. Merci de m'avoir invité. Et désolé pour ceux qui étaient venus une fois précédente et qui... J'ai dû annuler pour des raisons liées uniquement à l'âge, hein, j'imagine, puisque le limbago arrive plus probablement après 45 ans. Et comme j'en ai 50, et ben voilà. Donc là, je suis là et on va réussir à faire cette conférence. Alors je vais revenir un petit peu sur cet ouvrage, mais je vais essayer de... Je pourrais pas aborder tous les thèmes. Si vous l'avez lu, évidemment, je serai preneur des questions que vous pouvez avoir. Notamment, je ne reviendrai pas forcément sur un des chapitres qui est le plus polémique, donc peut-être certains vont être déçus, je ne sais pas. Mais je vais revenir sur un certain nombre de thèmes qui sont centraux et qui me tiennent à cœur sur la question de l'individu en sociologie. Si je voulais formuler aujourd'hui finalement le type de sociologie que j'ai faite, mais je ne pouvais pas le formuler comme ça il y a quelques années. Quand on est en train de faire les choses, on ne sait jamais exactement où on va. Maintenant, je peux dire qu'effectivement, l'effort que j'ai accompli dans un certain nombre de domaines, ça a consisté à essayer d'intégrer l'individu comme un objet légitime en sociologie. Dit comme ça, c'est à la fois pas grand-chose. On peut se dire bah, en quoi c'est intéressant, en quoi... Bon. Alors je vais essayer de vous faire comprendre un peu les difficultés de la tâche, les difficultés que j'ai rencontrées et qui sont assez significatives par rapport à ce que sont les disciplines qui aujourd'hui étudient les êtres humains. Psychologie, sociologie, géographie, histoire, anthropologie, etc. Au fond, depuis sa fondation, la sociologie entretient, et notamment la sociologie française avec Durkheim, entretient un rapport assez délicat, difficile, contradictoire, problématique en tout cas, avec la notion d'individu. Pour le dire de manière assez rapide, l'individu a assez rapidement été exclu de la sociologie dans les premiers temps de la sociologie. Donc je vais revenir un peu sur cette exclusion de l'individu du champ de la sociologie et d'essayer de montrer dans quelles conditions on peut le faire rentrer et comment il faut se battre avec nos ancêtres, avec Durkheim notamment, pour défaire les arguments qui ont conduit à exclure l'individu de la sociologie. Alors il faut d'abord se poser la question de la manière dont on appréhende finalement le social. Qu'est-ce que c'est qu'être sociologue ? En fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce que on n'a pas souvent une vision historique des choses, et souvent on enseigne la sociologie comme si Durkheim était encore contemporain. Il y a des gens qui se disent encore durkheimiens d'ailleurs, hein, ce qui m'arrive d'ailleurs de dire, je suis assez durkheimien sur plein de points. Mais Durkheim, c'est quand même il y a un certain temps, il y a une histoire de la sociologie, et en fait on se rend compte d'une chose déjà, c'est que pendant très longtemps, la sociologie a fait des choses qu'elle ne fait plus aujourd'hui, et notamment elle étudiait des variations, des comportements inter-civilisations. Voilà. Vous trouvez chez Weber, Max Weber, vous trouvez chez Durkheim, vous trouvez chez Simmel, vous trouvez chez les grands fondateurs de la sociologie française, allemande, essentiellement pour les grands auteurs, vous trouvez des auteurs qui brassaient allègrement des données portant sur des civilisations extrêmement différentes. Le travail de Max Weber sur les religions est un travail d'une érudition assez incroyable. Qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent, donc c'est très inquiétant. Voilà, Max Weber au 19e, fin 19e, début 20e, voilà, avait une érudition incroyable sur des questions de religion, et donc il brassait des données sur des civilisations très très différentes. Il faisait de l'histoire comparée, hein, ou de la sociologie comparée, mais en tout cas, il ne se posait pas la question de savoir s'il était encore sociologue en comparant confucianisme, taoïsme, baptisme, les différentes formes de chrétienté, etc. etc. De la même façon, vous trouvez chez Durkheim, dans un de ses grands livres, Les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est un ouvrage qu'on pourrait dire d'anthropologie aujourd'hui. Durkheim est sociologue et il étudie les formes donc élémentaires de la vie religieuse dans des sociétés sans état, sans écriture, etc., ce qui longtemps a défini l'objet de l'anthropologue, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps, mais enfin, il y a quand même quelques anthropologues qui travaillent toujours sur cette définition-là de l'anthropologie. Et donc Durkheim a publié ces choses-là, et il avait en tête évidemment de comparer implicitement sa société avec État, où grosso modo l'État a remplacé la religion, et son problème c'était comment on arrive à avoir une cohésion sociale, comment la religion a joué ce rôle de lien, de communauté, etc., comment l'État doit jouer ce rôle-là, et c'est ça qu'il essaye de comprendre. Pour faire ça, il fait des comparaisons, en fait, implicites ou explicites, avec des sociétés qui sont de nature extrêmement différente. Là aussi, Durkheim, sociologue, faisait ça. Donc vous avez des variations intercivilisation, et les sociologues, sans problème, travaillaient sur ces variations. Ils travaillaient aussi sur des variations inter-époques. Bon, c'est la définition de ce qu'on entend par un historien généralement aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous avez l'évolution pédagogique en France, vous avez Durkheim qui part du Moyen-Âge et essaye de comprendre la sociogenèse de de l'institution scolaire, des catégories scolaires de l'entendement, si on veut parler comme Bourdieu, qui citait Kant, évidemment. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, c'est une histoire qu'il se met à faire, et là aussi, il faut de l'érudition, il faut lire des travaux d'historiens, etc. Variation inter-époque de l'institution scolaire en fonction des formes d'exercice du pouvoir, notamment. Bon. Progressivement, ces objets-là ont disparu du monde de la sociologie. C'est un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de sociologues qui se permettraient de faire les formes élémentaires de la vie religieuse, ou d'écrire la sociologie des religions de Max Weber, ou de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui là aussi demande une perspective historique et aussi de la comparaison intersociété. Donc ces choses-là ont disparu, et puis ça s'est resserré sur l'État-nation. Quand on dit la société, aujourd'hui, enfin, si vous prenez une définition dans le dictionnaire de ce que c'est que la sociologie, on vous dit que les sociologues travaillent sur des sociétés. Ça peut paraître normal, en fait. Oui, mais en fait, la société, c'est l'État-nation, c'est-à-dire qu'on travaille sur une société donnée, délimitée par des frontières politiques. Et on a commencé à travailler essentiellement sur les variations de comportement à l'intérieur d'une société. Alors, les variations selon la classe sociale, la variation selon le type de confession des personnes ou leur situation familiale, etc. Il suffit de prendre les travaux de Durkheim, notamment le travail sur le suicide, pour voir que on va étudier toutes les variations d'un comportement suicidaire, enfin, la probabilité de se suicider étant faible globalement, heureusement, elle est plus ou moins faible selon, et là vous avez les conditions, enfin le type de métier que vous avez, si vous êtes célibataire ou marié, si vous êtes un homme ou une femme, etc. etc. Donc vous voyez que ce type d'objet, ça va faire le pain quotidien des sociologues du XXe siècle, on va dire. Le modèle du suicide, on prend un objet et on regarde comment ça varie à l'intérieur d'une société, selon un certain nombre de catégories, et dans ces catégories, il y a les classes sociales qui vont s'imposer de plus en plus dans les analyses, avec des outils statistiques comme les catégories socioprofessionnelles qui vont rendre possibles des enquêtes empiriques pour montrer comment les comportements varient selon soit l'origine sociale mesurée avec des catégories socioprofessionnelles des parents, soit en fonction de sa catégorie socioprofessionnelle d'appartenance. Mais on voit donc une réduction des objets à l'intérieur d'une société. On étudie les variations selon un certain nombre de catégories, et j'allais dire que l'histoire des facteurs qu'on a mis en avant pour expliquer les choses suit une histoire politique, un agenda politique. Je vous donne un exemple pour faire comprendre rapidement les choses. Quand mes deux collègues et amis, Christian Baudelot et Roger Establet, ont écrit L'école capitaliste en France en 1970, vous n'avez pas une seule ligne sur les rapports entre filles et garçons, sur les écarts entre filles et garçons à l'intérieur du système scolaire. C'est la classe sociale qui est déterminante. Le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les enfants sont inégaux dans un système. Ils sont traités tous, a priori, de la même façon. En fait, ils viennent d'être traités, au moment où ils étudient ça, ils commencent à être traités de la même façon parce qu'ils vont se retrouver dans les mêmes institutions alors qu'ils étaient séparés. Et voilà, il y a eu le lycée d'un côté, l'école primaire de l'autre, tout ça, c'est dit par Baudelot Establet. Mais donc, il y a une unification des deux réseaux scolaires et on étudie essentiellement ça, les grandes inégalités sociales. Et dans social, il y a classe sociale, les grandes inégalités sociales d'accès au savoir scolaire. Il n'y a pas un mot sur garçon-fille. Quelques dizaines d'années après, les mêmes sociologues, Allez les filles, Baudelot Establet écrivent Allez les filles, qui fait c'est un livre qui porte sur les rapports, enfin les différences garçons-filles à l'intérieur du système scolaire, pour savoir est-ce que les filles sont meilleures que les garçons, à quel niveau, elles sont où, on les trouve où, etc. Pendant longtemps, elles ont été plutôt mises de côté. Pendant très longtemps, au 19e, on a arrêté leur progression une fois qu'elles savaient lire, hop, elles partaient et seuls les garçons continuaient à écrire, etc. Et puis à un moment donné, tout le monde a été dans le même système, ça n'a pas été mixte tout de suite. Et puis une fois que ça a été mixte, ben voilà, ils ont suivi tout ce travail-là. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une montée des interrogations féministes. Bon, donc quand je dis qu'il y a un lien entre l'agenda politique et les objets scientifiques, sociologiques, c'est ça. C'est-à-dire que quand on s'intéresse publiquement à un certain nombre de choses, quand on met en avant un certain nombre de problèmes, il y a des sociologues qui s'en emparent pour essayer de montrer, effectivement, dans le monde social, comment ça fonctionne en fonction des classes, du sexe des individus, etc., etc. Donc on a fait ça. On a fait ça, et puis la sociologie s'est professionnalisée, et elle a fait des choses de plus en plus sophistiquées, où on est rentré de plus en plus dans le détail. Donc on étudiait selon des catégories, et puis on peut étudier des sous-catégories à l'intérieur de groupes, ou de sous-groupes à l'intérieur de catégories, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, les objets classiques de ça, c'est vous travaillez plus simplement sur les classes sociales, les ouvriers, les petits bourgeois, les bourgeois, etc. Vous travaillez sur le monde ouvrier, mais dans sa diversité interne. Et vous allez avoir des travaux qui vont porter sur ouvriers, ouvrières. Ou ouvriers du Nord, ouvriers du Sud, ouvriers de la métallurgie, ouvriers du textile, etc. Les gens font des comparaisons, montrent les différences internes au monde ouvrier, etc. Parfois des différences de génération. On va faire jouer les générations entre jeunes et vieux ouvriers. Parfois, c'est des catégories. Les gens vont travailler sur la jeunesse. Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Beaucoup de sociologues se sont engouffrés dans cette catégorie-là, enfin dans l'étude de cette catégorie, pour dire bon voilà, la jeunesse, ça prend des formes très différentes selon que vous êtes, que c'est une jeunesse populaire ou si c'est une jeunesse de classe moyenne. Et si on est dans une jeunesse dorée, c'est encore une autre jeunesse, etc. Donc là, vous avez des croisements de catégories et on commence à rentrer un peu plus dans le détail. Alors, j'arrive lentement vers l'individu, hein, mais on y arrive. Hein. Vous voyez qu'à force de croiser, on peut croiser encore à l'intérieur, etc. Mais vous voyez bien que l'histoire scientifique de la sociologie fait qu'aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a des grandes différences sociales dans un pays comme la France, je pense que dans votre tête, peut-être que je me trompe, mais il faut me le dire, différence sociale renverra essentiellement à des différences de conditions sociales, de classe sociale. Or, le social, ce n'est pas que les différences de classe. On a appris depuis, effectivement, à voir que les différences de genre sont des différences sociales, mais On peut aller encore plus bas, on peut s'approcher des individus et encore voir comment le monde social se structure. Alors, première chose, hein, on est passé des variations intercivilisation, variations interépoques, à des variations intra-société, intergroupe, intercatégorie, ou des variations à l'intérieur d'un groupe, les variations selon certaines catégories. Et on peut encore descendre et, par exemple, prendre un objet du type « Vous avez une famille, vous étudiez le destin des frères et sœurs de cette famille. » Vous constatez dans un certain nombre de cas que frères et sœurs, et bon, je vais neutraliser la question garçon-fille parce que sinon ça va être compliqué. On va prendre que des frères, comme ça on ne pourra pas dire c'est parce que c'est une fille par rapport à un garçon. Mais si je prends que des frères, bah, vous avez des familles où il y a un frère qui a accédé à l'enseignement supérieur, à un métier de cadre, etc. Et il y a des frères qui sont, parce que l'origine est ouvrière, etc., qui sont devenus ouvriers avec un CAP, etc. Même famille, même propriété sociale initiale, des destins différents. Bon. Alors ça, c'est un enjeu qui est intéressant parce que pendant longtemps, la sociologie n'a pas traité de ça. Et l'objet qui a été rappelé tout à l'heure, dans le tableau de famille, portait là-dessus. C'est-à-dire que j'ai étudié des cas de réussite scolaire en milieu populaire, en allant chercher les cas qui réussissaient de manière plutôt improbable, on va dire, parce qu'il est plus probable d'échouer dans le cas de, dans les situations de ses enfants que de réussir. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le sociologue a quelque chose à dire là-dessus ? Et la plupart du temps, et pendant longtemps, quand j'ai commencé à faire mes études, on avait tendance à dire non, c'est une affaire de psychologue. On m'a souvent répondu ça. On m'a dit, c'est une question, là, le grain est trop fin, c'est des particularités, c'est des singularités, c'est peut-être lié à des éléments de personnalité qui échappent à des logiques sociales qu'étudie le sociologue. On étudie des classes, on étudie des... Bon, des catégories, etc., mais la différence entre un frère et une sœur, ou entre deux frères, est-ce que, bon, ça, en quoi un sociologue pourrait dire, peut dire quelque chose là-dessus ? La différence entre deux enfants qui ont des parents avec les mêmes propriétés sociales, des parents ouvriers, des parents ou parfois chômeurs ou très précaires, etc., avec un grand nombre de frères et sœurs, avec des parents analphabètes, avec tout ce que vous voulez, je peux vous faire la liste. Il y en a certains qui cumulent des tas de handicaps, objectivement, pour le sociologue, et qui sont en très très bonne situation scolaire. Bon, alors, ce serait à détruire le discours sociologique, parce qu'on peut dire, bah oui, la preuve, c'est que le miracle est possible. Donc c'est soit la génétique, soit Dieu, vous faites votre choix. Personnellement, j'ai du mal dans les deux cas. Et je pense que, en fait, c'est toujours une question sociale qui a amené ces destins un peu singuliers. C'est toujours des logiques sociales qui a conduit ces enfants à réussir alors que la grande majorité du groupe échoue. C'est toujours des logiques sociales qui amènent un frère et une sœur à avoir des destins différents alors que, a priori, si on ne regarde pas de près, on peut se dire ils ont des parents avec les mêmes capitaux, comme disent les sociologues. Bourdieu disait ça dépend du capital possédé par les parents. Jusque-là, voilà, frères et sœurs ou frères ou sœurs, ils ont les mêmes capitaux. Alors, je dis ça, et puis en fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, rien qu'une chose qui varie, c'est qu'entre frères et sœurs, il peut y avoir des écarts de 10-15 ans, et vous avez dans certaines familles les premiers qui ont connu un père ouvrier et les derniers qui connaissent un père technicien parce qu'il était en promotion, enfin en voie de promotion, il n'était pas en promotion dans un marché quelconque, pardon pour la formule. Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait le même père, donc ça veut dire qu'il y a des dynamiques, que ça bouge. Il y a évidemment des différences entre garçons et filles qui fait que, de toute façon, la même famille ne traite pas de la même façon un garçon et une fille. On sait aussi que la même famille ne traite pas systématiquement l'aîné et le cadet. Hein ? Bon, il y a des anthropologues qui ont travaillé sur les albums de naissance, etc. Tout le monde dit, quand vous allez interroger des gens, quand ils font des albums de naissance, ils disent bah, c'est pour mon fils ou pour ma fille, etc. Puis en fait, pas du tout. Parce qu'au deuxième, il y a un peu moins d'albums de naissance, et puis au troisième, quatrième, on s'en fout complètement, il n'y a plus rien, je dis oui. Enfin. Donc ça, en fait, c'est un album de parents. C'est un rituel pour je deviens parent, donc je fais un album de naissance, etc. Il y a un surinvestissement, parce qu'on rentre dans le rôle parental, surinvestissement du rôle de parent, qui s'effondre ou s'efface petit à petit. Donc en fait, je pourrais citer plein d'éléments, c'est les mêmes parents, ils ont les mêmes propriétés sociales globalement, pas totalement non plus. Même quand ils restent stables, il y a encore des choses qui varient et qui sont liées à des logiques sociales, mais pas des logiques sociales, effectivement, assignables à la classe sociale ou au niveau de diplôme des parents, par exemple. Alors, déjà, ce qu'on peut appeler techniquement les variations inter-individuelles à l'intérieur d'une même catégorie, d'un même groupe, hein, d'un individu à l'autre, à l'intérieur de la même famille, voilà, il y a des variations. Et ce type de variation, j'ai essayé de l'amener en sociologie, en essayant d'argumenter, de montrer comment c'était des objets intéressants pour les sociologues. Mais je suis allé un peu plus loin, parce que bon, faut pas s'arrêter là, hein, ce serait dommage. Il y a aussi la question de la variation intra-individuelle. Alors ça, c'est d'un coup... Alors j'utilise des termes, s'il y a des psychologues dans la salle, ils trouveront ça normal. C'est des termes de psychologie, et notamment de psychologie différentielle. Quand on parle de variation inter-individuelle ou de variation intra-individuelle, c'est en lisant les psychologues que j'ai pu mettre des mots sur des choses extrêmement simples. C'est variation inter-individuelle, c'est d'un individu singulier à un autre individu singulier. Bon, voir les variations... Et quand je parle de variation intra-individuelle, c'est le même individu dans différents moments de sa pratique. Et la plupart du temps, dans différents contextes d'action. Et alors c'est là où ça devient un peu plus compliqué en sociologie, parce que les gens ne sont pas véritablement préparés à ce type de réflexion. Mais au fond, si on lit bien ce qu'a écrit Bourdieu sur la théorie de l'habitus, moi, je trouve que on peut déduire ce que j'ai fait de ce qu'il a écrit. Alors, je tords un peu les choses, hein, évidemment. C'est comme si c'était inscrit d'emblée, mais c'est une conséquence logique de ce qu'il a écrit. Parce qu'un habitus, Bourdieu dit, d'abord, c'est un habitus de classe. Il commence par dire que c'est des habitus qui dépendent des conditions d'existence, et il y a des classes de conditions d'existence, et pour lui, c'est des classes sociales, évidemment. Mais quand il commence à rentrer dans le détail, il nous dit que les habitus individuels, ça existe, et que c'est des variantes de cet habitus de classe. Donc on voit des variations, hein, il y a différentes manières d'être ouvrier, il y a différentes manières d'être petit bourgeois, aristocrate, etc. Bon. Il y a des habitus individuels, il y a des singularités individuelles, mais qu'il faut rattacher évidemment à des conditions de classe. On n'est pas singulier au point de se détacher complètement de sa classe sociale. On a les propriétés de sa classe, de son sexe, de plein de choses, et on est aussi un petit peu différent à chaque fois d'autres qui sont parfois du même sexe, de la même classe, etc., etc. Donc il y a ces singularités-là, et Bourdieu en parlait. La théorie de l'habitus, elle dit que le monde social nous forme, hein, nous éduque. Alors, le terme un peu plus technique, c'est socialiser, parce que c'est pas de l'éducation au sens formel du terme, c'est pas toujours explicite, et puis la plupart des grands processus de socialisation, les parents savent absolument pas qu'ils socialisent leurs enfants. C'est par l'exemple, la plupart du temps, ou le contre-exemple qu'ils donnent par rapport aux injonctions qu'ils renvoient à leurs enfants, que la socialisation se déroule, quoi. Donc les parents, ils disent, bah oui, j'arrête pas de leur dire si, ça, et puis ils font le contraire. Bah oui, tu parles. S'il n'y avait pas de contradiction dans le milieu, ils le feraient, mais il y a plein de contradictions, il y a plein de failles, il y a des choses qui s'opposent, il y a des adultes qui disent une chose et qui font le contraire, et ainsi de suite. Bon, donc c'est dans cette complexité-là que se font les socialisations, et les individus se forment, se forgent à l'intérieur de relations sociales, à l'intérieur d'abord de leur famille et puis pas que de leur famille. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre au cœur de ma sociologie, en tout cas. Alors que c'est vrai que, encore une fois, moi je me plains pas et puis je suis très content de mon sort aujourd'hui, mais pendant très très longtemps, y compris des gens qui étaient assez favorables à ce que je faisais, je pense à quelqu'un comme Claude Grignon qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, il me disait, c'est quand même plus une psychologie, quand même, hein, ce que vous faites. Vous rentrez vraiment dans le détail, dans des parcours, dans des singularités, etc. Il trouvait ça bien. Il avait dit psychologie matérialiste, et pour lui, c'était important. Hein, rajouter matérialiste après psychologie, sinon ça n'allait pas. C'était limite, et on voit bien que ça fait travailler des catégories. Moi j'en veux absolument pas à ces gens là et puis Claude Grignon est plutôt quelqu'un qui m'a soutenu à certains moments dans ma carrière, etc. C'est pas quelqu'un qui était complètement réticent, etc. Même chez des gens comme ça un peu ouverts et qui disaient que, ouais, le travail est bien, mais c'est quand même bizarre. Et il y a des gens qui pensent, effectivement, et qui pensent encore aujourd'hui, et ils sont plus nombreux, enfin, j'ai pas fait d'enquête statistique sur l'opinion de mes collègues, mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que le social, c'est le collectif. Cette équation-là, social égale collectif, elle est encore extrêmement forte, et vous avez des objets qui s'imposent plus facilement comme sociologiques. Un mouvement social, y a social, hein, donc c'est bon. C'est un objet pour sociologue. Une institution, ouais, ça c'est un truc pour sociologue. Une classe, c'est pour sociologue, etc. Des tendances d'opinion, on imagine des enquêtes statistiques, des grandes enquêtes quantitatives, ouais, ça c'est pour sociologue, c'est un peu grossier, c'est un peu, voilà, on saisit des grandes tendances, ça doit être pour les sociologues. Par contre, si on vous dit un individu, la manière dont un individu pratique une chose dans un contexte et dans un autre, là, les gens ne pensent pas spontanément à ça. Et il y a des résistances quand même par rapport à ça. Alors, si on revient deux secondes à Durkheim, parce que c'est quand même un peu de sa faute, si j'ose dire, même si je suis un grand durkheimien, peut être qu'admiratif du travail qu'il a accompli, mais pour des raisons de stratégie un peu politique à l'intérieur de l'université, il faut bien le dire, il fallait installer la sociologie qui n'était pas enseignée, hein, et puis pendant très longtemps, elle est restée, même du temps de Durkheim, on ne peut pas dire qu'on a enseigné beaucoup la sociologie. C'est à partir des années 60 en France que la sociologie vraiment commence à exister. 50, années 50. Il y a une licence de sociologie et de philosophie morale, ou je ne sais plus. Enfin, bon. Peut-être que des gens peuvent témoigner dans la salle, je ne sais pas. En tout cas, bon. Oui. Donc, la sociologie n'était pas présente à l'université et Durkheim avait le souci de la rendre académiquement supportable, on va dire. Donc, il a été extrêmement prudent, et notamment par rapport aux psychologues. Donc, pour arriver à exister comme sociologue, il a lâché l'individu. C'est technique classique, hein, si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui vous court après pour avoir votre argent, si vous lâchez un billet, vous avez peut-être une chance de pouvoir le freiner un peu, quoi. Bon, c'est exactement la même chose, hein. On arrête les psychologues à l'époque en disant, bon, d'accord, okay, l'individu c'est pour vous, on n'y touche pas. Et Durkheim, alors le problème c'est que c'est pas juste politique, je pense qu'il y a des conditions de politique institutionnelle qui l'ont amené à laisser tomber l'individu à un moment donné, mais il y a eu des arguments. Et il y a une représentation de l'individu qui est problématique. Alors, on comprend bien en fait le raisonnement d'Durkheim, on voit pourquoi il veut exclure l'individu étant donné les représentations qu'il se fait de l'individu. Il y a deux types de représentations que nous avons encore aujourd'hui, mais qui se retrouvent dans d'autres disciplines. La première façon de considérer les choses, c'est un individu, c'est un corps biologique. Bon. Durkheim dit la psychologie, quand il pense psychologie, il pense psychophysiologie. Il pense des éléments qui pourraient exister indépendamment de toute influence de la société, etc. Et il en conclut, à juste titre, qu'il n'y a pas grand-chose chez les êtres humains qui détermine leur comportement de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il admet, il lâche un petit peu, parce qu'il n'est pas sûr de lui, hein, il dit il y a sans doute quelques instincts, il y a certains grands penchants, etc., mais c'est tout à fait amorphe, ça ne conduit pas à réguler les comportements des individus. Ça commence avec l'éducation, avec la socialisation, des générations, des anciennes générations sur les autres, etc., etc. Bon, mais pour lui, psychologie, c'est psychophysiologie, et donc l'exemple qu'il donne, je ne sais pas si je vais retrouver ça, enfin, je ne sais pas si c'est d'ailleurs utile, si, voilà, sur c'est le concept de race. Pour nous, ça nous paraît bizarre, parce qu'évidemment, on ne voit pas en quoi le concept de race peut apporter quelque chose sur la question de la psychologie, enfin, des effets comportementaux d'une psycho organique, on va dire, hein, d'éléments organiques. Lui, il dit, il y a d'ailleurs un moyen d'isoler à peu près complètement le facteur psychologique de manière à pouvoir préciser l'étendue de son action, c'est de chercher de quelle façon la race affecte l'évolution sociale. Donc lui, pour lui, psychologie, c'est vraiment quelque chose de, on entendrait aujourd'hui, biologie, hein, ou génétique éventuellement, mais certainement pas psychologie. En effet, les caractères ethniques sont d'ordre organico-psychique, la vie sociale doit donc varier quand il varie. Si les phénomènes psychologiques ont sur la société l'efficacité causale qu'on leur attribue. Or, nous ne connaissons aucun phénomène social qui soit placé sous la dépendance incontestée de la race. Bon, donc on est rassuré, la race n'explique pas grand-chose, mais on voit que, pour lui, quand il a à traiter la question de l'individu, l'individu, c'est une entité psychophysiologique, et pour lui, la race est un bon exemple qui montre que, l'état naturel des individus ne les prédispose à pas faire grand-chose, ni à être capitaliste, ni à être chrétien, ni à être amoureux de leur conjoint, ni à avoir le sentiment de l'enfance ou de la protection de l'enfant, etc. Tout ça, c'est des créations sociales, c'est des créations historiques. Et là, c'est une affaire de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, etc. Alors ça, c'est la première façon dont il se représente l'individu. La deuxième façon, et alors là, on saisit un peu plus, parce que c'est un peu plus présent aujourd'hui dans nos têtes. Pour lui, l'individu, plus au sens psychophysiologique, mais l'individu concret, un individu qui est là, présent, comprend, dans un état donné. Et si vous prenez un adulte, ça veut dire qu'il a eu plein d'expériences. Bon. Cet individu, Durkheim nous dit, il est trop compliqué. Il pose un problème aux sciences sociales, à la sociologie tout particulièrement, parce qu'il est trop complexe. Et il parle de réfraction. Il dit qu'il y a plein de choses qui sont passées en lui, plein de tendances, etc. Mais vous ne pouvez pas le saisir au niveau individuel. Et là, on peut être un peu plus d'accord avec Durkheim. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que cette histoire, elle est compliquée. Et que parce que cet individu, il est le produit de choses extrêmement complexes, c'est pas facile de faire apparaître des régularités sociales, c'est pas facile de faire apparaître des tendances sociales, des lois sociales, parce qu'il avait l'idée de loi sociale, de dégager des lois sociales, en partant d'individus concrets. Et là, acte magique, il dit, c'est à partir du moment où vous prenez ces individus concrets, tous ayant une singularité particulière, un parcours particulier, etc., que vous les mettez dans des catégories et que vous faites des corrélations statistiques, que là, vous pouvez commencer à dégager des choses, c'est-à-dire à simplifier un peu des choses trop complexes. Et là, le sociologue commence à voir des choses. Et il a raison, évidemment, c'est ce que la sociologie va faire. Son travail sur le suicide que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ça. Vous prenez l'ensemble des cas de suicidés, vous, quand vous avez leur propriété sociale, vous pouvez croiser voilà, la probabilité de se suicider avec des propriétés sociales catholiques ou protestants ou juifs, célibataires, mariés, etc. Et voir que le mariage protège du suicide, voilà, j'allais dire du divorce, ce qui, non, pas du tout, hein, c'est pour ça que, vous avez compris quoi. Donc Durkheim prend des individus singuliers, en plus il fait quelque chose d'assez étrange, hein, si on y réfléchit bien, parce qu'il va chercher l'acte de suicide, il est quand même pas fréquent. Il va chercher un acte qui est particulièrement... Enfin, c'est presque une provocation à l'époque, hein, de commencer l'institution de la sociologie en France et faire un travail sur des gens qui se suicident, ce qui n'est quand même pas le plus fréquent. Or, il fait ça, il montre qu'il y a des régularités. C'est très fort. Et c'est très fort, mais ça l'amène à penser que seule la mise en catégorie... Enfin, il ne parle pas de mise en catégorie, mais c'est exactement ce qui se passe... Seule la simplification par la statistique permet de faire apparaître des choses, des objets sociologiques. Et ces objets sociologiques, il va appeler ça des tendances, il va appeler ça des courants, il va appeler ça des consciences collectives. Bon, il y aura plein de termes qui seront utilisés pour dire il y a des choses qui sont transcendantes à tous les individus, dont ils ne sont la plupart du temps pas conscients, qui les traversent, et c'est uniquement en faisant des enquêtes statistiques et en opérant des corrélations entre propriétés qu'on fait apparaître des choses qui ne sont même pas conscientes les individus en question ne sont pas conscients de ces relations-là. Alors, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit que là, on comprend que Durkheim est mis l'individu hors de la sociologie parce que on ne pouvait pas rentrer d'emblée dans une si grande complexité. Et on ne peut pas reprocher en fait à Durkheim d'avoir exclu l'individu et d'avoir insisté sur la mise en catégorie. La statistique, c'est ça. Alors, on l'a appris progressivement après grâce à des historiens des statistiques. Je pense à Alain Desrosières qui a fait un travail remarquable pour montrer le rôle même du calcul de la moyenne par groupe ou par catégorie pour faire exister des entités collectives. Aujourd'hui, quand je vous dis comme ça dans une conférence les ouvriers, les petits bourgeois, les cadres, les etc., ça vous choque pas parce que vous êtes habitué. Vous êtes habitué à entendre des données statistiques. On vous dit que l'espérance de vie varie en fonction du type de métier, que les générations d'avant 45 avaient telle espérance de vie et qu'après 45, elles ont eu telle espérance de vie, etc. Vous êtes habitués à des mises en catégorie comme ça et à des liens, à des corrélations qui sont faites entre certaines propriétés sociales et des comportements, des comportements ou des pratiques des individus. Mais ça a été vraiment une conquête pour les sciences sociales de faire ça. Et on comprend qu'effectivement, Durkheim ne pouvait pas prendre l'individu d'emblée comme un objet sociologique. Alors, en même temps, si on a en tête exactement le même problème que Durkheim quand il dit ce niveau-là de la réalité est trop complexe pour moi, donc je le laisse à d'autres. On se dit, mais en fait, si on rentre dans cette complexité, est-ce qu'on quitte la sociologie ou est-ce qu'on reste dans la sociologie? Est-ce que si je m'interroge sur la fabrication sociale d'un individu particulier, je suis sociologue ou je suis d'un coup psychologue ou psychosociologue ou je ne sais quoi? Donc, si je reste durkheimien, Je dirais que je suis sociologue si j'explique le social par le social. Ce que ne voulait pas Durkheim, c'était expliquer des phénomènes collectifs par des sentiments individuels, par des opinions personnelles ou des choses comme ça. Bon. Évidemment, il ne s'agit pas de faire ça. Mais en revanche, on peut se dire que peut-être qu'après autant d'années de travaux, la sociologie peut, et les sciences sociales plus généralement, peuvent se permettre de rentrer dans la complexité de la fabrication des individus. Et là, effectivement, on est obligé de changer un peu les outils qu'on a, mais si on veut expliquer le social par le social, il faut se demander, est-ce qu'un comportement individuel est un comportement social ? Quand j'étudie la réussite scolaire en milieu populaire, la réussite scolaire, c'est un comportement tout à fait social. Personne ne contestera que c'est une pratique qui est liée à une culture donnée, à l'état d'un système scolaire donné, etc., etc., à des savoirs qui ont une histoire. Bon, tout ça est une affaire sociale. Et pour comprendre que ça varie d'un individu à l'autre, à l'intérieur même de la classe, des classes populaires, eh bien, la question, c'est de savoir si les éléments que je vais mobiliser pour arriver à comprendre pourquoi certains réussissent alors que les autres échouent restent encore des éléments sociaux. Et dans Tableau de famille, croyez-moi, parce que je ne vais pas le développer ce soir, ce ne sont que des éléments sociaux que j'ai été chercher. Je n'ai pas eu besoin de recourir à des explications par je ne sais quel miracle ou quel don personnel, particularité qui échapperait à toute régularité sociale, etc. C'est bien dans le monde social, notamment dans les relations qui se sont tissées entre les adultes, ce n'est pas toujours les parents, et parfois ce n'est même pas des adultes, ça peut être d'autres enfants, etc. Bref, un enfant, c'est une réalité qui se fabrique dans des relations. Alors, la plupart du temps, d'abord, je dis la plupart du temps, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un père et une mère, mais la plupart du temps, c'est un père et une mère, c'est des frères et sœurs, et progressivement ça s'ouvre, et les choses ont varié dans l'histoire des sociétés, puisque de plus en plus vous avez des interventions d'agents socialisateurs extérieurs, des nourrices, des agents de halte-garderie, de crèche, etc., de l'école maternelle, puis l'école primaire, etc., etc. Et en fait, nous ne sommes, au fond, c'est ce que je soutiens, nous ne sommes que le produit de l'ensemble de ces relations. Pendant longtemps, les sociologues ont étudié le social à l'état que j'appelle déplié. Alors, j'utilise cette métaphore-là qui est assez simple à comprendre. Si je prends l'espace social, je peux dessiner sur une feuille l'école, le club sportif, l'église, la famille, etc., etc. Puis je peux même rentrer dans le détail et dire papa, maman, les frères, les sœurs, l'instituteur, le deuxième instituteur, le prof, et ainsi de suite. Et je peux regarder l'ensemble des relations qui se tissent entre un individu et l'ensemble de ces individus appartenant à des institutions ou à des groupes différents. La plupart du temps, les sociologues vont travailler de manière dépliée, c'est-à-dire qu'ils vont faire, par exemple, une sociologie de la famille. Donc, ils vont étudier la structure familiale, les relations qu'il y a à l'intérieur de la famille, des logiques familiales, de dettes entre les générations, d'échanges, de transmission, de culture, de valeurs, de tout ce que vous voulez, d'héritage matériel aussi, et ainsi de suite. Bon, on va étudier la famille. À côté de ça, il y a des gens qui vont étudier l'école. La sociologie de l'école, la sociologie de l'institution scolaire, on étudie, c'est quoi l'école, avec un tableau, une craie, machin, des dispositifs, des manuels scolaires, des exercices, etc. Et on étudie qu'est-ce que c'est que cette culture scolaire, qu'est-ce que c'est que cette pratique particulière à l'intérieur de cette institution qui s'appelle l'école. On parlait tout à l'heure de Guy Vincent, juste avant, Guy Vincent a travaillé sur la sociologie, c'était mon directeur de thèse, a travaillé pendant longtemps sur la formation de ce qu'on appelle l'école, qui s'est inventée, on va dire, autour du XVIe siècle, pour aller vite, sous des formes différentes, collège d'ancien régime, etc. on a l'invention et on peut étudier cette culture scolaire, l'invention de la pédagogie, la variation des différents types de pédagogie et comment elle s'articule à d'autres formes sociales, etc. Mais on va là étudier aussi de manière séparée, hein, un bout de l'espace social. Et vous pouvez étudier comme ça à chaque fois le club sportif, vous pouvez faire un très bon sociologue du sport, vous allez étudier qu'est-ce que c'est que de faire du foot, qu'est-ce que c'est que de faire du rugby, des gens qui travaillent sur les différents sports de combat et qui vous expliquent que voilà, moins on se touche, plus c'est élevé dans la hiérarchie des sports. Le aïkido, c'est très chic, on ne se touche jamais, quasiment pas. Et la lutte gréco-romaine, on est toujours en train de s'attraper, donc c'est vraiment très populaire. Ça marche très bien, hein, toujours. On doit ça à Jean-Paul Clément à Toulouse, qui a fait une très belle analyse de ces choses-là. Vous pouvez étudier la logique des sports, comment ils s'organisent, leurs règles, les manières d'être qu'ils promeuvent, etc. Mais là aussi, vous allez étudier juste cet espace-là sportif. Et alors, moi, ce que je dis depuis le début sur ces histoires de sociologie d'individus, c'est qu'un individu, ben, c'est le produit replié de toutes ces expériences-là. C'est-à-dire que, oui, la famille, ça existe, on peut l'étudier. L'école, ça existe, on peut l'étudier. Le club sportif, ça s'étudie. La religion protestante, Max Weber l'a étudié, on sait ce que c'est, etc. Bon. Mais le problème, c'est que les individus, ils ne découpent pas ça. Ils viennent d'une famille particulière, ils sont passés par l'école. Ils sont, j'ai oublié, garçons ou filles, et ils vont avoir à chaque fois des expériences dans tous ces espaces-là différentes parce qu'ils sont garçons ou filles. Donc ils viennent d'une famille particulière, donc d'une classe sociale particulière. Ils ont fréquenté une institution scolaire et puis ils sont allés peut-être à l'église et ils sont peut-être allés dans un parti politique ou un syndicat et dans un club sportif et dans ceci et dans cela. Et ils sont le produit de toutes les expériences qu'ils ont faites dans tous ces espaces-là. Donc, Durkheim avait raison, un individu, c'est complexe. C'est complexe, mais on voit bien que c'est quand même un horizon atteignable pour les sociologues. Ce ne sont que des processus de socialisation qui se mettent en place, enfin, qui sont mis en place partout. Les gens sont des produits de ces expériences dans toutes les institutions, dans tous les contextes d'action qu'ils ont pu vivre. Et leur singularité, en fait, elle vient de là. C'est parce qu'ils sont au croisement de tonnes d'expériences qui n'ont jamais d'équivalent. Vous avez beau être de la même classe sociale, vous avez beau être de la même famille, vous n'aurez jamais exactement les mêmes expériences que votre frère, même si vous êtes jumeaux. Même les jumeaux, il y a des bifurcations, il y a des écarts, alors que, pour plein de raisons, ils sont souvent socialisés de manière très très enfin dans des situations très très proches, quoi. Et donc on a une complexité, mais une complexité qu'on peut arriver à saisir. On sait très bien qu'on peut faire des entretiens sur l'ensemble de ces expériences, que c'est pas plus compliqué que de le faire sur un seul type d'expérience, de rester sociologue du sport ou sociologue de la famille ou sociologue de ceci ou de cela. On peut très bien s'efforcer de voir comment les individus sont le produit de l'ensemble de l'intériorisation de ces expériences faites dans des contextes d'action, dans des institutions, dans des espaces extrêmement, extrêmement différents. Il me reste combien de temps ? Parce que ça serait une bonne...
On n'a pas de réponse à cette question.
Non, mais je ne veux pas abuser de votre patience. 20h16. Ah oui, il faut que je termine. Non, il faut que je termine. Non, si je veux avoir des questions, il faut que je termine.
Si vous n'en voulez pas, il faut continuer.
C'est ça. C'est ce que je. Oui, oui. Oui, non, mais. Oui, oui. Dans 5 minutes, je termine. Voilà, je vous ai raconté tout ça parce que, au fond, il y a quelque chose qu'on n'a pas accordé aux sociologues pendant très longtemps. Que quand on étudie un seul cas individuel, c'est très difficile. Moi, je ne connais pas beaucoup de thèses en sociologie où les gens se permettent de faire l'analyse d'un seul cas. C'est assez rare et pourtant ça se fait de temps en temps. Et je voudrais souligner le fait que ça se fait beaucoup en histoire. Or, Les historiens, c'est des sociologues du passé. Les bons historiens, ils font la même chose. Oui, enfin, Michel Rothenberg n'est pas d'accord, mais beaucoup d'historiens sont d'accord avec moi. Non, mais on en parlera. On fait à peu près le même métier. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre un historien et un sociologue. Or, on n'a jamais dit à Jacques Le Goff que quand il écrivait son Saint-Louis, il faisait de la psychologie. Or, quand un sociologue se met à faire un seul cas, on lui dit... Oui, c'est pas représentatif. Enfin, alors tous les trucs qui entendent dessus, en quoi c'est représentatif de quelque chose, ben, c'est pas représentatif. Mais c'est comme quand vous faites une sociologie de Sartre, et il est représentatif de quoi ? De Sartre. Enfin, je veux dire, vous pouvez très bien faire une sociologie des intellectuels qui montre que Sartre a en commun avec d'autres philosophes de son temps des tonnes de propriétés. Il est né à une époque, il est passé par l'école normale supérieure, il est agrégé de philo, il a lu Heidegger, il a lu Husserl, il a fait plutôt un parcours autour de la phénoménologie. Il y a des tonnes de philosophes qui ont fait la même chose que lui. Mais il n'y a qu'un Sartre. Alors la question, c'est soit on ne s'autorise pas, de même qu'il n'y a qu'un Saint-Louis, bon. Soit on s'autorise pas d'emblée à aller dans la singularité, et à ce moment-là, on ne peut pas faire de la sociologie des créateurs. On ne peut pas faire de la sociologie même des grands hommes. Grands hommes, pardon, pour hommes. Hein. Bon, dans l'histoire, il se trouve que souvent, c'est des grands hommes et peu de grandes femmes, mais voilà. Ces sociologies du pouvoir de tous ceux qui se sont singularisés parce qu'ils ont eu un parcours très particulier et qu'ils ont trouvé une position qui était distinctive à l'intérieur de l'espace politique, culturel, intellectuel, artistique, etc. Qu'est-ce qui fait que Kafka n'écrit pas comme les autres écrivains qui écrivent, qui sont passés par les mêmes écoles que lui, qui ont vécu à Prague, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il n'écrit pas comme eux et qu'il a l'œuvre qu'il a ? Vous voyez, il y a plein d'objets qui seraient impossibles aux sociologues si on n'acceptait pas, en fait, de descendre au niveau de l'individu, à l'échelle de l'individu et à l'échelle de la fabrication de ces individus. Il y a un très bel exemple, là j'ai parlé implicitement du travail que j'ai fait sur Kafka, mais il y a un très bel exemple de Norbert Elias qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui sur Mozart. Il a travaillé sur Mozart et le sous-titre « Sociologie d'un génie » est assez provocatrice, mais en même temps pas trop, parce que ce que veut dire Mozart, c'est que même pour être génial et reconnu comme tel aux yeux des autres. C'est-à-dire que Mozart, il fait de la musique comme les gens de son temps, globalement, mais un peu différemment quand même, celle des autres. C'est-à-dire que si on le compare à d'autres, on voit très bien qu'il y a des choses qui sont communes. Et si vous n'êtes pas un grand mélomane, on vous fait écouter des gens de la même époque et vous allez dire, ah ben, c'est peut-être du Mozart. De même que Kafka, il y a quand même des gens qui ont des tentatives d'écriture qui se rapprochent. Pas beaucoup, mais bon. Donc il y a des cousinages, il y a des proximités, etc. Et en même temps, il y a des singularités. Et quand Elias dit sociologie d'un génie, il veut dire, mais allons jusqu'au bout, et il essaye de montrer comment on a créé un petit génie, un virtuose d'abord, avec un père qui a organisé une expérience autour de la musique, qui a tissé des liens affectifs avec son fils. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu dans des reportages sur des gens qui veulent faire devenir des champions de tennis, les fils ou filles, avec des parents un peu frustrés, qui voulaient avoir une carrière de tennis, etc., ou de foot, etc., et qui mettent leurs enfants au foot ou au tennis pour les surentraîner, etc. Mozart, c'est ça. Et il a tout un parcours qu'on peut arriver à reconstruire et on peut arriver à comprendre comment un enfant aussi petit a eu des expériences que d'autres n'ont pas eu, un entraînement que d'autres n'ont pas eu, etc. Et on peut, avec les instruments de la sociologie, tout à fait arriver à reconstruire un parcours atypique et positivement perçu comme différent. Et je m'arrête là-dessus, il en irait de même si vous voulez comprendre un ouvrier ou un paysan au XIXe siècle, que vous avez les archives pour le faire, ou que vous voulez faire une analyse aujourd'hui d'un cas d'ouvrier, de chômeur de longue durée, ou je ne sais quoi. Vous allez rentrer là aussi dans la singularité de son expérience, qui est une singularité relative, parce qu'elle est faite de plein de processus sociaux, mais vous allez rentrer dans cette fabrication-là, petit à petit, pour arriver à comprendre la singularité de ses comportements. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement élevé à... Enfin, c'est extrêmement important aujourd'hui que les sciences sociales rentrent dans cette singularité-là et rentrent dans cette singularité-là au moment où on a plutôt un discours social qui a tendance à rendre les gens responsables de leur malheur. Grosso modo, vous êtes au chômage, on vous responsabilise d'une certaine façon. On vous fait, d'ailleurs, une partie des gens qui travaillent sur les chômeurs, la première chose que vit un chômeur, c'est l'impression d'avoir fait une faute. C'est pas un hasard. Et de plus en plus, parce que les institutions veulent faire des gens autonomes, eh ben leur échec, on leur met sur le dos d'une certaine façon. C'est-à-dire que on est dans des sociétés où on sacralise l'individu d'une certaine façon, on le met en avant et en même temps c'est pour mieux le responsabiliser, le faire responsable de ses actes. Donc je pense que les sciences sociales ont des choses formidables, importantes à dire sur ces questions-là pour ne pas laisser penser que les individus sont de purs êtres volontaires et qui méritent ce qu'ils subissent la plupart du temps, etc. Voilà, je m'arrête là et j'attends vos questions, en fait.